Oh boy! Le petit nouveau qui vient de rentrer en studio, David Chabot. Voilà, t'as trouvé un titre, là. Chroniqueur de quoi, Pascal? On lui dit quoi?
De tout.
Chroniqueur de tout.
C'est un peu triste. Ouais. Ça fait très... je suis bon dans tout, mais pas excellent.
Non, il est excellent
c'est
dans
ça,
tout.
C'est ça, c'est là, ça, l'affaire.
Ce gars-là, à côté de lui, là, on se sent mal.
Oh. Ben là, parle pour toi.
Hein? Ah, pas toi?
C'est non, pas mais ça que je dis,
toi, tu te sens plutôt bien?
Moi, je me sens supérieur. Franchement, Yannick.
Tu sais, je m'en venais, là, puis je voyais ta face, c'est pas en garde de tour, je me suis capoté. Je m'en viens faire de la radio qu'un gars.
Avec ce gars-là, imagine-tu?
Ouais. Je me pinçais.
Avec la star de Québec.
J'ai des rougeurs sur les bras.
Pas vraiment, non. Mes gars, ils ont comme une autre vision des choses de voir leur père sur les pancartes, là. Mais moi, ça...
Les gars, ils disent quoi?
Ah, je peux pas dire tout ce qu'ils disent.
Arc! Hein.
On peut-tu te mettre une moustache?
Comme dans les journaux dans le temps, quand on les avait, t'sais, c'était tellement populaire, les journaux c'est à ça. La maison, que les enfants, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est dessiner des visages.
Mais le plus gênant, David, c'est quand les autobus passent. Puis là, c'est ta face qui passe, puis toi, t'es sur ton cellulaire dans ton char.
Ouais, c'est ça.
Sur ton cellulaire?
Ben oui, en train de texter Pascal CV. Là, tu te sens un peu mal parce que le chauffeur d'autobus, lui, il te voit dans ton char et il te regarde la face.
Mais voyons, j'espère que tu te sens mal pour plusieurs raisons, du genre être sur ton ciel pour aller en train de texter dans ton auto, Yannick.
Non, c'est ça.
Quelle confession.
Mais ça devrait finir, ça, bientôt, cette campagne de publicité-là.
Non, je pense qu'il en reste encore quelques semaines. Oui, à t'endurer partout dans la ville de Québec. Imagine quelqu'un qui t'a dans la face à longueur de journée, comment on peut être tanné.
Ça doit pas être facile. David Chabot, content que tu sois là aujourd'hui. Oui. On parle du Mossad. Écoute, la semaine dernière, on a trouvé... c'est soit qu'il y avait... Les gens trouvaient ça génial, d'autres trouvaient ça comme peut-être un peu trop dangereux parce qu'on n'était pas capable de prévoir qui allait être autour de ces fameux Padgett-là, mis à part les fameux terroristes du Hezbollah. Là. D'ailleurs, il y a un enfant de mémoire qui a été tué. On dit victime collatérale. C'est bien facile à dire victime collatérale tant que c'est pas le tien.
Exact.
Mais n'en demeure pas moins que c'est une opération assez particulière. Notre chroniqueur international, Louis Gauthier, nous avait dit il y a deux hypothèses. C'est soit que c'est vraiment une opération du Mossad ou soit que... C'était comme dans le temps avec les espions, là. Il y avait comme une pilule qui pouvait avaler pour justement ne révéler aucun secret. Donc, c'était une pilule de cyanure, de mémoire. Fait que lui, il disait, l'hypothèse du Mossad est plus plausible, mais celle où les gens du Hezbollah savaient qu'eux-mêmes avaient une bombe autour de la taille, ça pouvait être aussi plausible.
Bien, ça semble se développer, cette histoire-là, parce que là, il y a des renseignements qui sortent, puis l'histoire qui est comme... En ce moment, commune, là, okay? C'est que le Mossad a, pris possession de 5000 pagettes qui sortaient de la compagnie Gold Apollo de Taïwan. Okay? Puis ils ont fait la modification en cours, ils ont mis une couple de grammes d'explosifs, puis après ça, ça a été livré au Hezbollah. Puis après ça, ben, il y a eu les walkie-talkies aussi qui ont fait la même chose. Là. Fait que c'est un peu le même processus. Mais moi, ce que je trouve phénoménal, c'est que oui, il y a des victimes collatérales, puis on peut pas nuancer ça en disant c'est pas si grave, t'sais. C'est tout le temps grave. Sauf que t'es sûr que les gens qui étaient strikés, c'est des gens qui ont reçu le signal parce qu'ils sont dans la gang du Hezbollah.
Ouais.
Puis là, d'un coup, bang, tu t'en viens comme, je veux pas dire décapité parce que ça serait de mauvais goût, là, mais t'sais, diminuer de beaucoup la capacité opérationnelle d'un groupe terroriste du jour au lendemain. T'sais. Puis on voit que c'est ça la stratégie du Mossad en ce moment, c'est qu'avec le Hamas puis avec le Hezbollah, ils attaquent les leaders non-stop. Encore aujourd'hui, le nouveau leader du Hamas s'est fait tuer. En tout cas, il y a des rumeurs d'eux, là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. Puis,
d'après moi, il n'y aura pas beaucoup d'intérim pour la suite des choses.
mettons qu'ils ne reçoivent pas beaucoup de CV, là, mais tout ça pour dire que... Puis ça me fait penser beaucoup à ce que les États-Unis ont fait en Irak quand ils ont essayé de reprendre le contrôle avant de sortir, là, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec Al-Qaïda puis avec l'ISIS surtout. Puis là, d'un coup, ils ont dit on va faire le ménage dans le leadership de ISIS. Là. Puis c'est ce qu'ils ont fait, cibler sans arrêt le leadership. À un moment donné, ça finit qu'il n'y en a plus de gens qui ont de la compétence et de la qualité, puis ça se foire sur soi-même. Puis en ce moment, on n'entend plus tant parler de l'ISIS. Là. Fait que c'est un peu la même stratégie, je trouve, qui se répète. On attaque le leadership, on attaque aussi les gens dans leur sécurité quotidienne. Tu sais, t'es un agent du Hezbollah, si tu veux, puis t'es chez vous, puis tu sais pas là, ce que t'as dans les mains qui vont te péter dessus. Là. Fait que là, tu deviens paranoïaque. Tu ne parles plus à personne, tu t'isoles parce que tu dis de où ça va venir la prochaine... Ouais.
Au moment où il y a une crainte là, de ton prochain dans une équipe, normalement, puis ça, c'est une technique de guerre qui existe depuis toujours, c'est là où ça commence à se démanteler par l'intérieur.
Oui.
Ça, tu sais, je sais pas, là, mais je suis un agent du Hezbollah, mon Padgett explose, puis je l'avais laissé sur le divan pendant que je suis en train de prendre ma douche. Mon premier réflexe, c'est, attends un peu, Le cellulaire, ils me l'ont enlevé, fait qu'il ne peut pas y avoir de dynamite là-dedans. Mon CB, pourrais-tu y en avoir? J'aurais ouvert le CB, ça aurait été comme mon premier réflexe, là, où j'aurais fait surveiller le CB, tu sais. De savoir que ça arrive, que toutes les pagettes explosent, puis que 2-3 jours plus tard, il y a des funérailles, puis après ça, pouf, c'est les CB qui explosent, puis qui tuent encore du monde. Je me dis, tabarouette, est-ce que c'est... Parce qu'ils peuvent pas prendre l'avion avec ça, là. Tu sais, là, les milliers d'agents du Hezbollah, là, qui avaient ces Padgets-là, ils pouvaient pas prendre l'avion avec ça. Ça aurait été détecté rapidement.
Probablement, mais en même temps, la charge explosive était tellement mineure que peut-être que ça aurait passé. Mais je comprends ce que tu veux dire. T'sais. Puis là, à un moment donné, t'as pogné un à la sécurité de l'aéroport, tu dis, il y en a-tu pour toutes les autres? Puis là, tu viens de découvrir le plan. Là,
le poteau rose, c'est ça. Fait que c'est pour ça que l'explication de Louis Gauthier sur l'autre hypothèse possible, que c'était comme la pilule de cyanure dans le temps, là, il savait qu'il y avait une charge explosive à la taille. Fait que s'il y avait quoi que ce soit, il pouvait s'en charger. Je la trouvais pas folle parce que tous ces agents-là devaient se promener un peu partout dans le monde. Là.
Mais en même temps, il aurait tout sauté. Il aurait tout décidé de peser. C'est le golden.
J'ai la misère, moi, avec cette hypothèse-là.
Non, mais probablement que c'était inclus dans le package, là.
OK, puis il savait déjà, puis que là, Israël a su comment faire péter la dynamite.
Ça pourrait être ça. Écoute, c'est des hypothèses. Mon hypothèse, à vaut l'hypothèse des autres, là. Mais comment ils ont réussi à garder le secret si longtemps avec les Padgets? Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a voyagé, qui est passé par un système correct de détection de trucs de dynamite, là.
En même temps, t'es dans le Hezbollah ou le Hamas, là, ou peu importe le groupe terroriste, c'est sûr que t'es fiché, fait que t'apprends pas l'avion, là, tu comprends, tu te promènes en char, tu te promènes en bateau.
Ouais. Sur les mêmes territoires qui sont déjà conquis, ouais. Ou avec des endroits où se cacher, où ils se connaissent, c'est tout est couvert, là, à base, là.
Ouais, il est censé avoir une sécurité, justement, des frontalières, tout ça, là. Fait que, mais moi, je trouve ça fabuleux, tu sais, parce que le Mossad, là, c'est comme une agence des services secrets qu'on connaît moyen.
C'est le CIA, à peu près.
Ben, l'équivalent de beaucoup plus proactif que, par exemple, ici, le CRS au Canada. Parce que nous, ils ont un rôle de récolter des renseignements, puis, tu sais, d'être tout le temps j'avertis les politiciens de ce qui s'en vient. Ça, c'est le CRS au Canada. CIA a un rôle peut-être un peu plus proactif, puis évidemment, on ne sait pas tout, là. Mais le Mossad a vraiment un caractère qui marche avec la nature d'Israël, parce que c'est un pays qui est assiégé depuis toujours. T'sais, ils ont créé ça en 48, 49, dépendant quelle date que tu choisis. Puis là, il y a eu la guerre de 6 jours avec l'Égypte. Après ça, il y a eu le Yom Kippour des années plus tard. Ça, grosso modo, ils se sont fait envahir par les pays arabes. Puis là, il a fallu qu'ils se démêlent. Puis là, finalement, ils ont sacré une volée à tout le monde 2 fois, back-to-back. Puis là, le message a été lancé que Israël, ils savent ce qu'ils font dans la vie. Fait que là, il n'y a plus vraiment d'attaque terrestre, mais ils sont assiégés depuis le début. Fait que le Mossad, son rôle, c'est de protéger le pays, évidemment, mais par tous les moyens possibles et imaginables. Puis ils ont eu plein d'opérations dans le passé qui démontrent que eux autres, ils n'en ont pas de limite, finalement. Ils vont faire ce que ça prend pour soit protéger le pays ou rétablir des faits ou des faits négatifs historiques. T'sais, j'en ai sorti une couple des opérations qu'il y a eu dans le passé. En 62, là, l'opération Damoclès, en Égypte, là, il y avait plein de scientifiques qui développaient des systèmes de rockets, je sais pas comment dire ça, de fusées, parce que l'Égypte voulait avoir un programme nucléaire et tout ça. Puis là, d'un coup, Israël puis Mossad ont dit non, on fait le ménage là-dedans. Puis d'abord, c'est des anciens nazis, fait que c'est pas trop grave. Bang! Fait que là, ils ont fait une grosse opération, ils ont décapité complètement ce programme-là, puis ça n'a jamais eu lieu à cause de leur intervention. En Argentine, il y avait beaucoup de nazis qui avaient émigré là-bas. Il y avait des rumeurs, tu sais, est-ce que Adolf Hitler,
ben oui. C'est ça. Il avait refait sa vie.
C'est ça. Il se promène là, il n'y a plus de moustache puis les cheveux longs, puis là, tout le monde dit hey, ça passe, là, ça, c'est, on le connaît pas, ce gars-là. Ouais. Mais il y avait Adolf Eichmann, ou Eichmann, je ne sais pas comment dire ça, là, mais lui, finalement, c'était comme le grand logisticien de l'Holocauste. Fait qu'il était dans la première rencontre qui ont dit c'est-tu quoi, les Juifs, on fait le ménage. Puis là, excuse-moi, je ne veux pas être de mauvais goût en disant ça. Mais tu sais, il était dans les premiers à dire regarde, on va faire l'Holocauste, puis on va faire la solution finale. Puis là, ben lui, à la fin de la guerre, il est disparu. En fait, il s'est fait capturer par les Alliés. Il s'est évadé. Puis ça, boum, il est allé en Argentine. Mais ils l'ont pas oublié. Fait que là, en 1960, ils sont allés le chercher. Ils l'ont ramené en Israël. Puis ils l'ont jugé. Puis en 1962, ils l'ont pendu. Mais tu sais, il aurait pu dire, regarde, ouf, c'est du passé, on regarde par l'avant. Non.
Ils s'en souviennent.
En 1945, t'étais un tout croche, mais en 1960, on va m'organiser pour que t'ailles la monnaie de ta pièce.
T'sais. On veut qu'il y ait une fin à l'histoire atroce que t'as commencé à écrire.
C'est ça. Fait que ça, c'est tout des missions d'assassinat ou de recherche, finalement, d'individus pour l'intérêt collectif. Puis là, tu regardes, je pourrais t'en sortir plein. Là.
Tu trouves pas que c'est un dangereux précédent, ce qu'ils ont fait, le Mossad?
Parce que
leur toucher, le Hezbollah, puis tous les gens qui font partie de groupes qui sont reconnus comme étant des terroristes, là, tu viens de leur glisser une idée dans leur tête. Là. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous atteindre, nous autres aussi.
Mm-hmm.
T'sais, ils peuvent le faire. Ça va être à nous autres d'intercepter les affaires, tu vas me dire. Là. Ouais. Mais il n'en demeure pas moins que là, ce qu'ils ont fait, c'est un grand coup. À mes yeux, à moi, au niveau de l'espionnage, c'est du génie.
C'est un peu ironique, par
mais
contre.
Mais eux autres, de leur côté, ils vont vouloir se revenger.
C'est un peu ironique de le faire avec des objets de l'Antiquité, quand on a toutes les technologies maintenant pour avoir des soldats robots, des drones ou de l'espionnage en rentrant dans les logiciels. Puis ce qui a été jasé, puis tu l'as effleuré, mais une des hypothèses, c'est vraiment ça. Il y a eu un sous-contractant, en fait. On a demandé at large à des gens qu'on se sentait en sécurité de demander de nous fournir Padgett, talkie-walkie pour se défaire de nos cellulaires pas géolocalisés. On a demandé à Taïwan. Taïwan n'était pas capable de fournir l'offre en question et ce serait retourné vers Israël parce qu'eux étaient capables. Mais c'est comme un concours de circonstances au final dans lequel ils se sont dit on est à bonne place au bon moment, nous on postule, puis on va dire qu'on est capable de les fabriquer, puis peut-être que c'est arrivé, mais finalement on a transigé par Taïwan. Sauf que c'est super ironique. Par une technologie ancienne de toujours. Finalement, il n'y a plus rien qui protège certaines unités de guerre là, et ou de terrorisme et ou, je peux continuer, mais tous ceux qui veulent faire du mal. Là.
Ben oui, mais en même temps, c'est un peu ça l'optique finalement. Le Mossad veut que en tout temps, n'importe où ce que tu es, si tu es un méchant, m'aller te chercher. Mm-hmm. Fait que là, ça décourage les gens. T'sais. Puis là, c'est tout le temps l'espèce de balance entre tu crées du terrorisme quand tu t'en vas faire un geste négatif dans la vie de quelqu'un, puis ça le forme, puis il se dit « Hey, sais-tu quoi, je vais me venger. » Bon, il y a ça tout le temps. On l'a vu beaucoup en Afghanistan avec les talibans. Fait que ça, c'est le côté « je crée du terrorisme », puis le côté « je décourage le terroriste », c'est « je passe la gratte, il n'y en a plus un qui vient encore », puis là, ben, à un moment donné, quand il n'y a plus personne au party, ben, le party est fini tout seul. Là, fait que c'est un peu entre les deux. Là. Mais il y a une créativité là-dedans que, de façon un peu macabre, je trouve ça phénoménal, parce que en Occident ou même au Canada, on penserait jamais que le SRS ferait quelque chose comme ça. Mais pour eux, c'est normal. Puis d'ailleurs, le Mossad relève directement du président. Quand toutes les opérations qui sont faites sont toujours autorisées par, dans le cas, il y a présent Netanyahu. Tu sais.
C'est tous des petits Jack Bauer.
Genre.
Ils ont une connexion directement avec le président. Mais bon, je sais que c'est l'information qui nous est mentionnée, mais on dirait que je ne suis pas capable de le concevoir, qu'il aurait pu mettre du C4 là-dedans, que ça a pris l'avion, que ça n'a jamais été détecté, que les agents du Hezbollah n'ont jamais vérifié qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ces Padgett-là. Il n'y a jamais un Padgett qui est tombé à terre, qui a éclaté en morceaux, tu sais, pour voir le fameux C4. Ouais. Tu sais, il y a des affaires louches là-dedans.
Je comprends. Puis peut-être que c'est un genre d'agent double trip à l'intérieur du Hezbollah qui a facilité tout ça. Tu sais, les moyens sont infinis, puis jamais ils vont nous le dire publiquement. Tu sais, on a procédé de cette façon-là. Fait que là, c'est des sources semi-anonymes, des anciens agents du Mossad qui se prononcent pour dire « je pense qu'ils l'ont fait de cette façon-là ». Tu sais.
Autre sujet, mon ami, on avait prévu d'en jaser ensemble. T'es un gars qui tripe sur le théâtre. Toi et ta conjointe, vous allez voir les pièces de théâtre.
Toi, t'as un passe-droit de pouvoir parler de ça ici.
T'es impliqué.
T'as un gros passe-droit.
Je l'aime, David.
Je me sens choyé.
T'es impliqué, justement, dans le théâtre aussi. Vous avez décidé de faire une pièce comme pour l'Assemblée nationale du Québec. Ben, explique-moi ça.
OK, ben ça s'appelle l'Assemblée Québec. C'est à l'aborder là, jusqu'au 17 octobre, OK?
Ouais.
Le 12 octobre, excusez-moi. En fait, le concept de la pièce, c'est
vous avez mis théâtre et politique ensemble.
Oui, oui, puis c'est du théâtre, semi-documentaire. Donc, à la base, ils ont réuni 4 personnes complètement opposées. Fait qu'une fille turbo de gauche écologiste, un gars libertarien, homme d'affaires, tu sais, qui est pas trop dur de comprendre le bonhomme, un catholique vraiment fondamental, que lui, tu sais, ses valeurs, finalement, c'est anti-avortement, puis tout ça. Puis un gars de Wendake, Première Nation, libéral, tu sais, très... Il se qualifie lui-même de woke. Okay.
Mais ça, est-ce que c'est des comédiens qui jouent ces rôles-là ou c'est vraiment des gens comme ça? Là?
Non, ils ont fait le souper, ils ont enregistré, puis ils ont fait un texte de théâtre verbatim avec qu'est-ce qui avait été dit. C'est juste qu'ils ont coupé certains moments.
Ils ont pris de vraies personnes. Ouais. Ils ont assis à un souper. Ils ont fait converser. Ils ont dit qu'est-ce qui va émerger de ça pour qu'on en fasse une pièce de théâtre. Puis après, tu as des comédiens qui ont joué la petite pièce.
Exact. Puis tu reconnais les gens parce que, à la première, en tout cas, je veux pas trop voler de punch.
Mais il y en a un là-dedans que c'est un de tes chums. Là.
Ben, je voudrais pas le dire. Mais parce que c'est des gens anonymes, tu comprends. Mais c'est une personne qui est pas trop dure à identifier.
Ouais.
Puis les trois autres qui étaient au souper initial, ils étaient là aussi au lancement de la pièce. Puis on dirait vraiment que c'est eux autres qui sont sur la scène. Fait que c'est malade. Puis tu sais, c'est des débats quand même intenses. Parce que là, tu sais, comment tu peux rallier une fille turbo de gauche, gauchiste, écologiste, avec un gars libertarien de droite, homme d'affaires, chroniqueur? Tu sais, tu comprends que c'est. Puis là, ben, ça finit qu'à un moment donné, parce que je veux pas voler les punchs, mais à la fin, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu te dis, OK, dans le fond, il y a un message social là-dedans. Là, on est capable d'être opposé, mais on est capable de se retrouver sur un terrain d'entente.
Mais surtout de se jaser. Là. Juste d'être capable de se jaser, puis de dire, OK, ben voilà pourquoi toi, tu penses ça de telle ou telle situation. C'est souvent très formateur ça, pour un individu. Là, quand tu dis, hey, j'ai jamais été d'accord avec ce gars-là, mais je comprends maintenant sa vision des choses par rapport à telle ou telle situation.
Exact. Exact. Puis là, ça effleure le tramway, le troisième lien. On les connaît, ces
sujets-là. Vous parlez des dossiers de Québec en plus.
Ben, c'est de Québec. Fait que c'est vraiment des sujets.
Avec un chroniqueur ancien politique ou peut-être en politique libertarien, tu comprends?
Oui,
mais c'est anonyme. C'est anonyme, on peut pas le dire. Puis ce qui est cool aussi, puis là, c'est un peu un punch que je vole, mais en même temps, ça donne le goût d'y aller. C'est qu'à un moment donné, ils sont rendus quelque part dans la conversation, puis là, tous les comédiens se lèvent, puis il y en a une qui prend la parole devant le public, puis qui dit, gars, je vais briser le...
Elle brise le mur.
Le mur, puis je vais vous dire, garde, on s'en va, la table est là, parce que le décor, c'est comme une table avec 6 places, puis des micros, puis des caméras, puis c'est à vous maintenant. Puis là, ils se poussent de la scène, puis là, c'est des gens de la salle que tu connais pas, que tu sais pas, qui se lèvent, puis disent, moi, j'ai le courage, je m'en vais parler.
OK.
Là, moi, j'étais la première, puis là, il y a un bonhomme qui se lève, il dit, moi, je suis prof de littérature, puis je trouve qu'on fait pas assez de place aux femmes, puis moi, je sais comment les femmes réfléchissent, puis tout, puis là, tu comprends bien que ça a fait trigger tout le monde dans la salle, fait que là, t'as 6 filles qui sont montées sur la scène pour dire, non, mais je suis pas d'accord avec toi, puis là, ça a comme moussé pendant 15-20 minutes, tu sais.
Ah, ouais.
Fait que là, ça génère un débat, puis ça, ben, tu comprends que la thématique, c'est. On l'a fait dans un super organisé, mais dans la vraie vie aussi, on est capable de se parler si on regarde ça intelligent. Là.
Ouais, c'est très cool. C'est une première, ça? C'est...
Ben, c'est un concept qui fait le tour du monde, mais c'est la première fois qu'on le fait à Québec. Fait là, c'est très thématique ici, puis c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est divertissant.
C'est une pièce de théâtre qui dure combien de temps?
C'est environ 1h50, mais tu le vois pas passer parce que tu sais c'est intéressant. Tu dis, OK, mais moi, j'aurais dit ça à ce moment-là, puis hop, ça sort d'une autre place, puis ça s'en va dans une autre direction, puis tu es tout le temps stimulé intellectuellement puis politiquement dans la pièce.
Puis le théâtre, c'est lequel?
L'aborder.
L'aborder, puis ça se donne à raison de combien de représentations par semaine?
Ben, en fait, par semaine, je pense qu'il y en a 5 ou 6, puis là, c'est jusqu'à la mi-octobre, puis ben, là, je ne sais pas si on peut le dire, mais ça serait le fun de faire tirer une paire d'étiquettes pour ça.
Je ne sais pas si tu es au courant. Les comédiens, est-ce que c'est des gens qu'on connaît?
Ben, quand tu es dans le théâtre, mettons, tu les vois plus souvent, mais ce n'est pas des figures super connues, mais c'est ça qui est le fun, parce que tu leur donnes pas un sticker d'un personnage que tu as déjà connu.
Ouais.
Tu sais, là, ça peut être n'importe qui, finalement. Mais
ça se peut qu'il n'y ait aucun lien entre le personnage qui joue et eux autres.
Ben, tout à fait, parce que le libertarien de droite chroniqueur, ancien politicien, on l'a matché, mettons, avec son acteur à la fin, puis on jasait ensemble, puis c'est zéro la même personnalité. Là. Mais quand il est sur la scène, il est rentré, puis j'ai éclaté de rire parce que j'étais à côté de mon ami libertarien chroniqueur.
Ouais. Donc, j'ai donné mais anonyme.
Anonyme. Puis j'ai donné une grosse bine sur l'épaule, puis je suis parti j'ai dit, ben oui, c'est toi, tu sais.
Ça dure 2 heures, ça se passe au théâtre L'Abordé. C'est 5 représentations par semaine?
Environ, mais en tout cas, l'horaire est tout sur le site web. Là.
C'est jusqu'à quand?
C'est jusqu'à la mi-octobre, le 12 ou le 17, là, j'ai comme un blanc. Là, mais okay.
Fait qu'il faut se dépêcher. Là.
Il y a de la place quand même, là, ouais. Dans le sens qu'il y a des belles dates. Des fois, le samedi après-midi à 4 heures, ça se bloque bien. Là, fait que, il y a de la flexibilité pour ça, puis sérieusement, je vous encourage tous à y aller.
Fait qu'on peut aller sur le site de L'Abordé pour acheter les billets. Là, tu fais tirer une paire de billets?
Oui, pour la date du choix, puis selon les billets restants. Là,
par texto au 88-971-1021, 88-971-1021, c'est quoi le mot de passe?
Anonymat.
Moi, je dirais Lycra, là, en l'honneur de tes bobettes de Lycra pour vendredi.
Lycra.
Ouais, je les aurais pas, ces bobettes de Lycra-là. Ça a été un plaisir, David.
Toujours.
Tu reviens-tu la semaine prochaine?
Certainement.
Bon, Pascal t'apprécie.
Fait que, ça en prend un dans le studio.
Il comprend vite.
Ah oui, il comprend vite. On vous met un peu de Bob Bissonnette, puis on vous revient tout de suite après avec Je te trouve écœurante sur les ondes de Boulevard. Merci, David Chabot.
Merci.